Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Radio Foot. Nous sommes vendredi et comme chaque vendredi, le Café des Sports ouvre ses portes. Accoudé aux zincs, les habitués sont en place. Bonjour Philippe Doucet.
Bonjour.
Bonjour Xavier Barré.
Salut Hugo, bonjour à tous.
Salut Alejandro Valente, bonjour. Vous êtes mon chef, je peux vous dire bonjour.
Bonjour, bonjour Hugo, bonjour à tous bien sûr.
C'est un peu plus poli. Et bien sûr, l'incontournable, l'inamovible, Rémi Ngono. Bonjour Rémi.
Bonjour à tous les fans catalans, j'espère qu'ils se sont réveillés du cimetière où ils étaient et parce qu'ils avaient déserté ma page Facebook. Bon réveil à vous et bienvenue à la vie.
Le plat du jour pour ce Café des Sports, c'est la Ligue Europa, un repas qui nous laisse un arrière-goût désagréable. La rencontre entre Lyon et le Beşiktaş a débuté très tard hier, la faute à des incidents regrettables, on va dire ça comme ça, qui ont pollué l'avant-match. Christophe Diremzeron, bonjour.
Bonjour Hugo.
Vous étiez à Lyon ce jeudi et vous nous raconterez tout ça. Nous aborderons aussi des sujets un peu plus heureux, comme le dernier défi de Didier Drogba par exemple. Le grand Ivoirien qui reste en Amérique à 39 ans, le voilà désormais pensionnaire des Phoenix Rising. Le Phoenix qui renaît de ses cendres, c'est de circonstance, la retraite n'est pas loin et Drogba pense d'ores et déjà à sa reconversion. Les États-Unis, c'est l'une des nouvelles places fortes du football, comme la Chine, pays où l'argent coule à flot dans les caisses des clubs du pays et dans les caisses des autres, signe que les temps sont en train de changer. L'un des plus prestigieux clubs européens passe sous pavillon chinois. Il s'agit du Grand Milan, une institution qui cherche elle aussi à retrouver son lustre d'antan. Radio Foot, le Café des Sports avec Nicolas Benita aux manettes, c'est parti. Drôle de soirée hier à Lyon et dans les environs avec au final une victoire de l'OL face au Beşiktaş Istanbul en quart de finale aller de l'Europa League. Succès renversant, on y reviendra, 2-1. Point d'orgue d'une soirée où le football a longtemps été relégué au second plan. Le match, Christophe Diremzion, a débuté avec 45 minutes de retard. On est presque un peu surpris et soulagé qu'il ait pu se tenir. Des incidents, le journal L'Équipe parle même d'un chaos, sont venus gâcher cette soirée.
Oui, effectivement, tout s'est passé en fait en amont de ce match, puisqu'il y a eu déjà des incidents sur le parvis du Parc Olympique Lyonnais, un tout petit peu auparavant d'ailleurs, des échauffourées entre groupes de supporters du Beşiktaş et du club de l'OL, qui sont retrouvés mélangés. Déjà, c'est pas forcément déjà la meilleure solution pour apaiser les esprits. La police a déjà dû les séparer. Intervention à coup de gaz lacrymogène. Ensuite, ça a dégénéré. Il y a eu notamment le saccage de la boutique de l'OL qui se trouvait sur place. Et puis c'est après en fait que tout a dégénéré. Ça s'est passé un quart d'heure avant le coup d'envoi théorique à 21h05. On a entendu deux grosses détonations. C'était des pétards et des bombes agricoles vraisemblablement, qui ont été jetés du virage sud, c'est l'endroit où se trouvaient notamment les supporters turcs, et ils ont été jetés sur une partie des autres supporters qui se trouvaient dans la même zone, et qui ont évidemment été pris de panique, parce qu'il y a eu un mouvement de foule, on s'est dit qu'ils étaient en danger. Et la seule solution dans ces cas-là, évidemment, c'est de se trouver un point de sortie sécurisé, c'est d'aller sur le terrain. Donc il y a eu envahissement d'une partie des supporters. Les stadiers, évidemment, n'ont pas pu faire grand-chose. Et progressivement, eh bien, l'ensemble de la pelouse du Parc OL a été tapissé de personnes et de supporters qui voulaient évidemment éviter de se retrouver en situation très dangereuse. Ça a duré une bonne vingtaine, trentaine de minutes. Grosse confusion, grosse incertitude d'abord pour savoir si le match allait vraiment avoir lieu, parce que dans ces conditions, on sait jamais comment ça peut se passer. Le temps que les supporters repartent vers les tribunes, et d'ailleurs, ils ont été accompagnés par Jean-Michel Aulas,
le président de l'OL est intervenu.
Géo de luxe. Grand organisateur de luxe, il a conduit il a emmené, disons.
Voilà, il les a emmenés, il les a accompagnés et il est resté donc bonne mi-temps avec eux, déjà
en tribune.
En tribune, voilà,
derrière le but.
Discuter évidemment avec eux et surtout pour servir un petit peu de caution de sécurité par rapport à ses supporters.
On l'écoute justement, Jean-Michel Aulas, il nous relate ses faits.
On fait des stades qui sont des stades faits pour les familles, pour le football tel qu'on l'aime aujourd'hui. Et heureusement que ce stade avait des fonctions d'ouverture de la tribune sud, parce que si les supporters se sont réfugiés sur la pelouse, c'est qu'ils étaient en danger dans la tribune. Ils se sont fait bombarder avec des engins pyrotechniques, avec des bombes agricoles. On a de nombreux blessés. J'ai pu voir des supporters qui avaient la fierté de ne pas vouloir aller à l'hôpital, mais qui étaient ensanglantés, qui avaient pris beaucoup de jets de projectiles. Donc à force de raison, j'ai montré que moi-même, je regarderais le match avec eux.
C'est assez impressionnant hein, ce que nous explique Jean-Michel Aulas. Philippe Doucet, vous étiez à Lyon également hier, ça fait longtemps, hein, c'est pas le prenez pas mal que vous suivez le football, ça vous a impressionné ce que vous avez vu hier? Vous avez souvent vu des scènes comme ça en Europe tout du moins?
Ce qui m'impressionne surtout, c'est que d'abord, il n'y a pas qu'en Afrique qu'il y a des problèmes dans les tribunes, il faut faire la remarque au passage. Et surtout, il n'y a qu'en Europe où on considère que le problème est résolu. C'est-à-dire que c'est incroyable, depuis au moins 10 ans, je n'entends plus que il n'y a pas de problème, les supporters au contraire, faut les rapprocher, c'est formidable les supporters, c'est génial, les groupes de supporters, c'est génial, faut les intégrer dans les clubs, machin, c'est génial, ça fout l'ambiance, etc. Et il n'y a évidemment plus aucun problème de hooliganisme, etc. Or, je suis désolé, à Nice, toutes les semaines, après chaque match, ils changent 200 à 300 sièges. Et ce sont les supporters agréés, très bien. Le PSG a ramené des supporters. Qui, on l'a vu à
des
Lyon.
Des ultras,
et on a vu à Lyon que, même si c'est pas exactement les mêmes, c'est quand même, disons, leur assiette élargie qui a carrément saccagé le stade de Lyon, en l'occurrence également. Donc, il y a des gros problèmes. En Italie, il y a des très gros problèmes. Et aujourd'hui, aussi, on se cache en disant non, mais il n'y a pas de problème, on maîtrise tout ça, tous nos stades sont modernes et il n'y a aucun
Philippe.
Problème.
C'est on l'a vu aussi pendant l'Euro de 2016. Le match était classé niveau 4, donc ils savaient qu'il y avait des risques.
Ouais,
d'ailleurs, en général, il y a des risques avec les communauté turque. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais à France Football lors d'un match à Bruxelles. Ils avaient dû déplacer carrément. C'est un match amical en plus de la sélection turque. Ils avaient dû déplacer une tribune entière pour éviter les confrontations. J'ai vécu ça toujours avec les Turcs lors de la Coupe de Confédération 2003. Là, c'était à Saint-Étienne. Il y avait un Brésil, Turquie. Pareil, ils avaient dû modifier la répartition des supporters dans les tribunes pour éviter justement des problèmes. Ça arrive régulièrement avec certaines communautés qui ont des fortes populations immigrées dans les pays de l'Europe occidentale. C'est le cas évidemment des Turcs, mais pas seulement. Et donc, comme ils achètent les billets directement auprès, parce que beaucoup sont aussi français et par exemple et parlent parfaitement français, donc ils achètent aussi les billets directement, donc ils sont mélangés dans le stade.
Ça dépasse le cadre du parquage visiteur qui est alloué.
Effectivement, il avait été placé en haut, ce qui fait qu'il pouvait bombarder les supporters de Lyon qui étaient en dessous, ce qui était effectivement un très mauvais choix. Il y a eu une grossière erreur à ce niveau-là, mais il y a régulièrement des problèmes avec certaines communautés dont les supporters effectivement ne sont pas vraiment encadrés.
Alors, ce que vous voulez dire, hein, vous me dites si je me trompe, Philippe, c'est que c'est vrai qu'il y a un peu un débat dans le football ces dernières années. Par exemple, le PSG en est assez emblématique. On veut des ultras pour avoir de l'ambiance et on se plaint des stades qui seraient trop aseptisés. Jean-Michel Aulas parlait d'un stade familial tout à l'heure. On l'a entendu. Est-ce qu'effectivement, ce qui s'est passé hier, Rémi, nous pousse à réfléchir un peu sur quel type de public on veut voir dans les stades de football en Europe?
Effectivement. Parce que là, en Europe, on se rend compte que on est en train de reculer pour se retrouver avec une sorte de catégorie qu'on peut appeler un barbare septentrional qui devient subitement l'heureux des tribunes, parce que justement on dit que l'ambiance est bonne en Turquie, mais quand même on voit que en Turquie depuis 2004, là-bas des incidents dans les stades entraînent des morts. On a vu un reportage de CNN Turquie qui disait quand même que qui présentait ceux qui étaient considérés comme des grands supporters en Turquie, qui avaient des associations où ils buvaient, ils fumaient du cannabis et ils hurlaient en disant que le football c'est d'abord la violence et poignarder l'adversaire. C'est quand même horrible. Donc à une certaine période, lorsque vous constatez qu'on continue à valoriser la violence dans le football en Turquie, j'ai dit il y a un problème, parce que justement aussi Vous avez même pu constater, même les dirigeants en Turquie, j'ai vu par exemple le président de Trabzonspor là, qui est Ibrahim Yassis
Mitroglou,
Yassis Mitroglou, qui se met quand même non seulement à dire à son collègue que bon, écoutez, je vais vous poignarder et je ne sais pas là où je pourrais vous enterrer en Turquie. Et on a applaudit ce monsieur-là. Rémi, il séquestre des gens. Donc, en Turquie, j'ai dit aujourd'hui, en Europe, du moment où on ne sévit pas durement, du moment où on considère que les ultras mettent de l'ambiance dans les stades, eh bien, nous sommes dans des polkas de cirque.
Alejandro.
Oui, mais on sait effectivement qu'aujourd'hui, il est très difficile d'empêcher à certains groupes, etc., d'accéder au stade par voie détournée. Ce qui me choque le plus dans le récit de Jean-Michel Aulas ou dans celui de Christophe, c'est de voir qu'il y a des pétards, des bombes agricoles, etc., qui étaient à l'intérieur du stade. Ça veut dire qu'il y a eu un problème
de sécurité
en amont, au niveau du contrôle d'accès. C'était le même problème qu'on avait remarqué lors de la finale PSG-Monaco, qu'on évoquait tout à l'heure aussi.
Et l'autre donc, jour, Sénégal-Côte d'Ivoire, absolument. À Charletti, pareil. Donc, ils enfoncent des grilles.
Déjà pour le contrôle, c'est comme si on disait dans les aéroports, il y a des bombes qui explosent dans les avions, c'est qu'il y a un souci au niveau du contrôle en amont.
Clairement, l'OL est en train d'expérimenter un nouveau stade, il faut le reconnaître, un stade beaucoup plus difficile que Gerland. Parce que d'abord il est neuf, ensuite parce qu'on peut circuler tout autour, ce qui est l'idée géniale, on peut circuler tout autour du stade, donc c'est très convivial, c'est très sympa, tant qu'on est entre gens de bonne compagnie, et quand on n'est pas entre gens de bonne compagnie, ça donne ce qu'il y a eu hier, c'est-à-dire des attaques contre les CRS, pas seulement les Turcs, les Lyonnais aussi, il y a des groupes de Lyonnais. J'entends que les Turcs, les Lyonnais aussi, certains s'y sont mis également, et là c'est des bagarres rangées, c'est infernal.
Les torts sont partagés, un dernier mot, Christophe.
Oui, l'introduction des fumigènes et des pétards, c'est ce qui va causer de gros problèmes à l'OL, parce qu'effectivement on peut supposer que Beşiktaş, qui est responsable de ses supporters, va écoper certainement d'une sanction dont on ne sait pas encore exactement la nature.
Comme c'est pas venu de leur parkage, à mon avis, le Beşiktaş aura sûrement une amende.
Il y aura quelque chose.
Mais pas forcément grand-chose, parce que c'est hors parkage.
En tout cas, il risque d'avoir des problèmes d'amende.
On verra ce que décidera l'UEFA. On va s'interroger un peu sur le match retour. Jean-Michel Aulas, en tout cas, on lui a posé la question. Une de vos consoeurs, Christophe, lui a demandé s'il aimerait voir ce match retour se jouer à huis clos. Il aura lieu la semaine prochaine. Sa réponse.
Mais je n'aime rien du tout. Je dis simplement qu'il s'est passé des choses qui sont inadmissibles, qui ne sont pas contrôlables, et que par contre, avec un référendum qui a lieu dimanche, ce serait prendre une très grande responsabilité que d'envoyer l'équipe de Lyon en Turquie. Voilà, maintenant, si l'UEFA le décide, on sera bien obligé de le faire. On a déjà eu un avant-goût de ce qui se passait, puisque nous étions en Turquie pour le premier coup d'État en août, et les joueurs ont été ramenés à leur avion avec des chars.
Alors là, c'est intéressant ce qu'il dit Jean-Michel Aulas, parce qu'il élargit à la situation politique en Turquie. Ouais. Ce référendum dimanche qui pourrait voir les pouvoirs du président Erdogan largement élargis. La tension politique est forte en Turquie, et ça s'est un peu senti peut-être hier, Christophe. Ça fait aussi partie des explications à ce qui s'est passé hier.
Oui, c'est effectivement ce qu'on avait avancé, parce que les supporters turcs en général ont un certain nationalisme, il faut le reconnaître, effectivement, et ça va déborder, et ça peut déborder jusqu'à la sphère politique. Après, est-ce qu'il y aura véritablement un lien de cause à effet entre les résultats de ce référendum constitutionnel et ce qui se passera éventuellement jeudi si le match est maintenu à Istanbul, où effectivement il sera peut-être il aura peut-être lieu ailleurs. C'est pas forcément un lien de cause à effet totalement immédiat.
Mais ça pose la question de l'entrée de la politique, des tensions sociales à l'intérieur des stades.
Justement, les supporters de Beşiktaş sont réputés pour être plutôt de gauche, plutôt opposés à Erdogan. Il n'est pas exclu que si Erdogan gagne comme on le pense, ou le craint, comme on veut, le référendum, il n'est pas exclu que le politique intervienne dans ce match. Ce sera 3-4 jours après.
Vous en pensez quoi, vous, de ce match retour? Que faut-il faire pour que ça, on ne se retrouve pas devant les mêmes images que celles qu'on a vues hier?
C'est dangereux. Je pense que jouer à huis clos à Istanbul, ça n'a aucun sens. Puisque c'est de toute façon repousser le problème juste en dehors du stade, peut-être devant l'hôtel des Lyonnais, donc ça n'a pas grand sens. Je pense que le plus simple, ce serait effectivement de jouer sur terrain neutre. Ça s'est déjà fait par le passé. Je me souviens que Monaco, je crois, était allé jouer contre Galatasaray à Cologne il y a quelques années. Donc c'est des choses qui arrivent souvent. Il faut rappeler que la sélection turque, après le fameux barrage contre la Suisse, où des joueurs suisses avaient été agressés dans les couloirs du stade à Istanbul, la sélection turque avait été suspendue 6 matchs. Alors de tête, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde de l'Euro 2004, je crois.
D'accord, donc c'était il y a déjà une dizaine d'années.
Ils avaient été suspendus 6 matchs. Et donc les matchs qui n'avaient pas pu avoir lieu en Turquie s'étaient déroulés en Allemagne.
On sait que les Allemands. Quelle Allemagne veuille accueillir un tel match aujourd'hui hein.
Parce que malheureusement
faudra peut-être aller jouer en Suisse.
Le football a été perturbé aussi en Allemagne cette semaine. On peut éventuellement, il nous reste quelques minutes, parler du match, puisqu'il y a quand même eu un match qui a pas été inintéressant. Non, tout ça, le cœur n'y est pas trop.
Ah non, pas du tout. Non, moi, j'étais au match.
Ça vous gâche la fête à ce moment-là.
Complètement. Très honnêtement, je n'aurais pas eu mon métier qui m'obligeait à être là pour commenter. Je faisais comme beaucoup de pères de famille que j'ai vus avec leurs enfants paniquer, partir. Partir à 9h moins le quart, c'est-à-dire à un quart d'heure du coup de sifflet du début du match officiel. Plusieurs centaines de spectateurs sont partis et moi je serais parti. Très honnêtement, je n'avais aucune envie de voir un match de foot.
Vous seriez resté ou vous auriez
et en plus
le match,
c'était un match médiocre, Rémi. Il faut bien le dire.
Ah, j'essaierais de rester. De toute la façon, une chose est sûre, c'est que on est allé pour un match et peut-être en allant à l'extérieur, il y avait même peut-être plus d'insécurité là-bas. Mieux valait encore rester là dans cet endroit. Alors, c'est vrai quand même que le spectacle n'a pas aussi été. On a constaté que même les joueurs lyonnais ont été totalement marqués.
Et c'est ce qui explique la première mi-temps bizarre des joueurs lyonnais.
Je peux le dire parce que les joueurs turcs sont déjà habitués à ces ambiances-là, comme d'ailleurs Xavier l'a noté. C'est-à-dire que là-bas, vous voyez, par exemple, quand un arbitre siffle, eh bien, on peut totalement le bloquer dans les vestiaires. La dernière fois, d'ailleurs, c'est le président Erdogan qui a été obligé de libérer, de demander qu'on libère un arbitre qui était séquestré avec toute la délégation juste parce qu'il n'avait pas sifflé un pénalty.
Donc on aujourd'hui, compris que Rémin Gono n'était pas forcément un aficionado de l'ambiance dans les stades en Turquie.
Ah non, c'est terrible quand on voit cette ambiance.
Ce match, rapidement, Xavier, première mi-temps défavorable à l'OL. Rapidement, ils prennent un but un peu bizarre, combinaison sur coup franc.
Sur coup franc, et puis une très belle réaction en deuxième période, avec ces deux buts, notamment celui de Tolisso, et puis derrière celui de Morel, qui a vraiment cru jusqu'au bout pour aller récupérer ce ballon dans
en
les pieds du gardien.
Ces deux buts.
Oui, et donc c'est franchement, moi j'ai trouvé que cette réaction de l'OL était vraiment intéressante, et j'ai retrouvé un peu l'OL à réaction qu'on avait déjà vu contre la Roma au tour précédent,
c'est ça.
Après une première période décevante.
En beaucoup moins brillant, mais c'est ça, ils ont réagi un peu de la même manière, oui.
Et donc l'objectif de Lyon cette saison, on le sait, c'est d'aller jusqu'au bout pour essayer d'accrocher une place en Ligue des Champions et faire un peu comme Manchester United dans cette compétition.
Au bout, ce qu'on a vu là.
Eh bien, mais sur leur capacité de réaction, capables. Ils en sont capables. Après, il faudra effectivement qu'ils fassent deux. Ce serait mieux, surtout s'ils sont en finale.
Il faudra être meilleur contre Genk en demi-finale.
Alejandro Valente.
Défensivement dans la rue, offensivement.
Rémi. Laissez parler Alejandro. Vous en avez pensé quoi, vous, de l'équipe lyonnaise?
Je suis assez d'accord avec Xavier. Je trouve que par rapport à l'équipe lyonnaise qui nous avait inquiété en championnat quelques jours plus tôt face à Lorient, j'ai vu une équipe qui avait beaucoup de cœur, qui s'est battue jusqu'au bout. C'était pas toujours génial, mais quand même, il y avait une intensité, une envie de retourner cette situation et ils y sont parvenus, donc c'était plutôt intéressant.
Le match retour se joue où? Et je voudrais quand même rappeler que Lyon n'a pas gagné, Lyon n'a gagné qu'une seule fois en 2017 à l'extérieur. Donc,
il suffit d'un match nul.
Donc, de toutes les façons, le problème c'est qu'ils ne parviennent pas à faire un match nul à l'extérieur, en dehors de Metz. Donc, aujourd'hui, ce Lyon-là, et quand j'ai regardé la défense, c'est pas un Lyon qui peut tenir.
On laisse le mot de la fin à Christophe.
Ce n'est pas un Lyon indomptable, on ne sait pas.
Déjà rappelé qu'il n'y aura pas de supporters de l'OL à Istanbul. Hein, et il n'y aura pas d'organisation de voyage sur place. Donc déjà, ça permettra peut-être d'éviter des problèmes supplémentaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Mais en tout cas, ça permettra effectivement déjà aux supporters lyonnais de ne pas éventuellement se faire agresser gratuitement, inutilement.
Et concernant le match, des motifs de satisfaction, des motifs d'inquiétude,
oui, pareil que les autres, la capacité effectivement de réaction de l'OL en très peu de temps, mais effectivement dans un match qui globalement n'a pas été génial, pas tant d'occasions que ça, et bon, ils ont su effectivement retourner des situations au bon moment. Il faudra peut-être montrer un autre visage quand même face à Beşiktaş au match retour.
Merci Christophe Giramizio, on vous libère. On va libérer également la Ligue Europa hein, qui nous a amusé ou pas hier.
Pas
et on parlera football africain en deuxième partie, notamment de Didier Drogba. Vous restez avec nous évidemment pour la deuxième tournée du Café des Sports. C'est dans quelques instants sur RFI, à tout de suite.
Bonjour.
Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Radio Foot, la deuxième partie du Café des Sports, bienvenue. Si vous nous rejoignez, on salue Nicolas Benita et David Finzel qui sont en cuisine. Et on accueille notre ami Frédéric Nkena. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Alors vous êtes notre correspondant en Égypte, vous êtes passé nous voir, c'est sympa. On va vous payer un coup. Et vous allez nous parler des pharaons d'Égypte. Parce qu'on s'est dit qu'il était un petit peu trop en confiance, notre ami Rémi Ngono, maintenant qu'il est redevenu champion d'Afrique. Donc on va rejouer la finale de la CAN. Au moins sur ce plateau. On va rapidement parler avec vous des pharaons d'Égypte pour prendre des nouvelles d'eux voilà, quelques semaines, un peu plus de 2 mois après leur défaite en finale de la CAN. Comment vont-ils ces pharaons?
Ils vont bien, ils s'attendent à jouer la prochaine Coupe du Monde. Donc c'est l'objectif, on va dire, ultime hein, pour les pharaons d'Égypte.
Alors, il y a eu une petite trêve internationale pour eux. Bon, on coupe la musique pour discuter plus tranquillement avec vous. Là, il y a eu une trêve internationale avec une victoire convaincante face au Togo.
Ouais, une victoire
3-0.
Ouais, ça allait dans le sens de ce qu'on a vu hein, à la CAN. Une équipe d'Égypte qui commence à avoir des fondations, qui commence à s'habituer au style de jeu de Hector Cooper. Donc,
il est toujours autant critiqué. L'Argentin.
Avant la CAN, c'est vrai qu'il était forcément critiqué parce que l'Égypte gagnait toujours des victoires étriquées. Donc, mais bon, à la CAN, je pense que personne ne s'attendait à voir l'Égypte arriver en finale et pouvoir même la gagner. C'est vrai que l'Égypte est passée tout proche de la victoire. Donc, maintenant, il est tranquille dans sa mission de qualifier les pharaons d'Égypte pour la prochaine Coupe du Monde.
Alors, l'Égypte en tête de son groupe d'éliminatoire pour la Coupe du Monde, vous l'avez rappelé, 2 matchs, 2 victoires. Et là, il y a une double confrontation face à l'Ouganda. Ce sera cet été. L'Ouganda, deuxième de la poule. On peut dire globalement que c'est quand même très bien parti.
C'est très bien parti, mais il faut pas sous-estimer l'Ouganda qui, en général, ne perd jamais à Kampala. Et je pense que c'est là-bas que va se jouer la qualification pour la Coupe du Monde. Parce que le Ghana, on peut dire que le Ghana est hors course. Ça va être difficile pour le Ghana de revenir.
Hors course. Alors, le Ghana n'est jamais hors course. Méfiance.
Philippe Doucet, qui est également autour de cette table, vous en pensez quoi, cette équipe d'Égypte? Maintenant qu'ils sont revenus sur le devant de la scène, revenus à la CAN, revenus en finale de la CAN, est-ce que maintenant c'est l'une des nations africaines qui compte, ou est-ce que c'était un one shot entre guillemets?
Non, c'est pas un one shot. De toute façon, quand l'Égypte marche, globalement, c'est quand même très important parce que c'est un des très grands pays d'Afrique qui a un ADN, un background considérable sur le continent, qui a gagné 7 CAN, qui a vraiment tous les arguments pour durer et qui a en plus celui que je pense être peut-être aujourd'hui le meilleur joueur d'Afrique, peut-être avec Pierre-Emerick Aubameyang, mais je pense que Mohamed Salah et avec Sadio Mané, ce sont vraiment les meilleurs. Donc l'Égypte a des arguments. À côté de ça, et l'Égypte a des arguments aussi parce que même chez les jeunes, enfin, on sent que ça va mieux. Quoi. Globalement, ça repart un peu le championnat. Il y a un petit peu de spectateurs. Enfin, ça reste très compliqué. Notre envoyé spécial pourra nous le dire plus fidèlement, mais ça reste compliqué. Mais c'est mieux quand même qu'il y a quelques années.
Est-ce qu'on paye l'hôtel des joueurs en Égypte? Est-ce qu'on fait comme au Cameroun? Ouais. On les laisse jouer à jeun leurs matchs amicaux. Rémi, l'Égypte, c'est le rival du Cameroun là pour les années à venir. Au moins jusqu'à la prochaine Coupe du Monde.
L'Égypte a toujours été. Il faut savoir que même quand le Cameroun des années 2000 régnait sur l'Afrique, il a quand même été détrôné par l'Égypte. C'est d'ailleurs avec la grande génération des Mbouma et tout. Ça a été terrible parce qu'on a vécu ça comme totalement une malédiction. Chaque fois, on tombait devant les pharaons et chaque fois, on savait qu'on était dehors. Mais cette fois-ci, on a su quand même les mettre dans la marmite. Je crois qu'ils vont y rester longtemps avec des condiments pour qu'on puisse continuer à les manger totalement sur la belle table camerounaise. C'est vrai qu'aujourd'hui, les lions très affamés et qui manquent d'encadrement, de management et qui sont toujours obligés à aller présenter des excuses parce qu'ils n'ont pas mangé et présentent des excuses au gouvernement que pardonnez-nous d'avoir dit que nous n'avons pas mangé, nous n'avons pas eu des hôtels. Donc, par rapport à l'Égypte, il y a plus une bonne organisation, il y a plus un suivi. Et moi, je crois que lorsqu'on a vu quand même l'Égypte venir élever ce niveau-là, alors qu'on ne l'attendait pas, quand ils arrivent, ils s'installent totalement comme des pyramides. Hein. C'est indestructible. Donc, si la guerre n'aurait pas, si l'instabilité politique n'aurait pas eu à détruire l'Égypte, je crois qu'on serait...
L'Égypte aurait, n'aurait pas eu ce creux.
On en a été grandement victimes. C'est les clubs qui ont été le plus touchés, qui ne gagnent plus les Coupes d'Afrique, alors qu'ils dominaient largement.
La victoire, c'était 2014, Coupe de la Confédération, c'est ça.
Oui, mais sinon, le Zamalek et Al-Ahli gagnent quand même beaucoup moins qu'avant.
Le Zamalek battu.
Enfin, pour modérer tout ça, ni le Cameroun, ni l'Égypte n'ont dominé la CAN. Soyons honnêtes, toutes
donc
ces équipes...
Donc on n'est pas sûr de les voir dominer le foot africain dans les mois à venir.
Non, toutes ces équipes étaient très proches, mais quand même, par l'ADN en quelque sorte, l'identité forte de ces deux grands pays de foot, comme par hasard, c'est quand même eux qui ont été jusqu'en finale sans avoir des équipes meilleures que
Xavier
les autres.
Xavier Barrel et Rondro Valente, la perspective de revoir l'Égypte en Coupe du Monde, ce qui n'est pas forcément très courant, sous la dernière participation...
1990 en Italie, vous avez d'ailleurs été très bon, avec notamment les frères...
Ça vous séduit de la perspective, on est encore loin, mais de les revoir...
Oui, parce que, comme disait Philippe Doucet d'ailleurs, il y a un vrai fond de jeu, il y a une vraie qualité, il y a une vraie tradition de formation, et surtout on voit que c'est une équipe qui n'est pas dépendante d'un joueur. C'est une équipe où il y a toujours suffisamment, un réservoir suffisamment important pour constituer un collectif intéressant. Moi, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, je les ai trouvés intéressants, vraiment bons, avec des joueurs d'expérience. Le gardien, là, 44 ans, qui est encore là, mais il y a surtout beaucoup de jeunes qui arrivent. Et je pense que s'il n'y avait pas eu, comme le disait Rémy Ngono, ce coup d'arrêt avec les événements politiques, alors qu'ils avaient gagné 3 cannes d'affilée, ils seraient restés au sommet, ils auraient sûrement accroché une qualification pour une Coupe du Monde.
Oui, et je pense qu'avec la perspective d'une Coupe du Monde à 48, qui commence à se profiler, l'Égypte va devenir un pensionnaire tout à fait régulier.
Tout à fait régulier.
Oui, mais Réfé, malgré tout, l'Égypte a raté deux ou trois cannes de suite.
Trois cannes de suite.
Ils ne sont pas qualifiés, trois cannes de suite. Ouais. C'est-à-dire, trois fois de suite, ils n'étaient pas dans les 16. C'est donc, ne pas croire que maintenant qu'on est 9. En Afrique, tous les pays vont se qualifier. Hein,
comme le disait Rémy, il y a eu un trou politique. Ouais. Allez, pour conclure le débat, Frédéric Nkena, un débat, c'est plutôt une discussion sympathique. Hein, les qualifications pour la CAN, là, qui débutent en juin, sera même avant la double confrontation face à l'Ouganda. Déplacement en Tunisie pour commencer, pour l'Égypte. Les autres adversaires, c'est le Niger et le Swaziland. Mais déplacement en Tunisie, c'est coton. Et globalement, se battre pour aller au Cameroun avec la Tunisie, c'est difficile.
Ouais, mais bon, je pense qu'en Égypte, on connaît très bien la Tunisie. Il y a souvent des matchs, des confrontations en club. Et la Tunisie a un petit peu le même profil que l'Égypte, c'est-à-dire des joueurs qui sont issus des grands clubs locaux. Donc je pense que les deux équipes se connaissent bien. D'ailleurs, les deux équipes se sont affrontées juste avant la CAN. C'était d'ailleurs le seul match de préparation pour ce qui est des pharaons d'Égypte. Et l'Égypte avait gagné sur la plus petite des marges, 1-0.
On reste sur le football africain. Alors là, on change quand même globalement de sujet. On va parler de Didier Drogba. Je mets pas de virgule parce qu'on enchaîne. Je nous ai mis bien en retard et je m'en excuse. Didier Drogba, qui n'est pas encore à la retraite après le Canada et Montréal, il poursuit son rêve américain direction l'Arizona, la deuxième division américaine, le Phoenix Rising, pour jouer, mais pas que. Il devient également actionnaire du club et pourrait, si on en croit les bruits ici-là, occuper un rôle dans l'encadrement. Philippe Doucet, vous le connaissez un peu, Didier Drogba. Il pense déjà à l'avenir, à sa reconversion. Alors déjà, pourquoi être allé au Phoenix Rising?
Les deux dernières fois que je lui ai parlé m'amèneraient à être très surpris, d'abord par ce choix, parce qu'en décembre, je l'avais vu à Abidjan, où il m'avait dit toute sa déception devant la MLS. Il disait non, je ne retournerai pas aux États-Unis, franchement. Ça
23 buts en 41 rencontres.
Ouais, mais déçu par le niveau, par la façon dont ça s'est passé dans son club, à Montréal, etc. Donc, il disait ne pas avoir envie du tout de retourner aux États-Unis, donc première chose. Et en mars, quand je l'ai eu cette fois-ci, c'était plus indirectement au téléphone. Là, il me disait je suis en train de m'orienter vers l'Est. Bon, donc c'était plutôt la Chine, a priori, où il serait retourné, en l'occurrence, puisqu'il a déjà été une fois là-bas. Et puis, tout d'un coup, revirement total. Alors, est-ce qu'entre-temps, son envie d'être simplement joueur s'est un peu atténué, parce qu'il s'est rendu compte quand même, il le savait, hein, qu'il avait 39 ans et que c'était peut-être pas l'avenir n'était pas devant lui, même s'il a toujours envie de jouer, ce qui est assez surprenant et plutôt gratifiant.
Forcément, l'Europe, là, c'est un peu plus compliqué. La première division européenne. Est-ce qu'il écorne son image, Rémy Ngono, en allant en deuxième division américaine, Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il tire un petit peu sur la corde? Faudrait pas mieux s'en aller, voilà, partir au sommet, entre guillemets?
Non, parce que à une certaine période, il faut quand même se dire que même Roger Milla, à une certaine période, s'est retrouvé dans un club de village aux Antilles, là-bas, avant la Coupe du Monde. Donc, à une certaine période aujourd'hui, Didier Drogba, ou
à la Réunion.
Quand on parle de Didier Drogba, il faut quand même se dire que nous sommes devant quelqu'un qui a connu les grands championnats. Mais depuis 2004, c'est-à-dire lors de la finale contre Valence, quand il était même à l'OM, il avait déjà des blessures. C'est un joueur qui a 1m88, donc il doit jouer sur la puissance physique. Or, même en 2008, on avait annoncé la fin de la carrière de Didier Drogba puisqu'il fallait extraire le liquide synovial de sa jambe gauche. Donc, ce monsieur a eu à tirer toujours sur la corde. Même à la Coupe du Monde 2010, on connaît comment ça s'est passé, il était totalement blessé. Donc, voilà un joueur qui a réussi à rebondir et on me dit encore qu'il faut qu'il aille jouer dans des grands championnats. Non, il a écouté son corps, il a compris qu'il ne peut plus. Mais là, il a une opportunité. Il se rend compte que je prépare mon après-carrière de footballeur. Là, il ne devient pas seulement footballeur, mais il est entrepreneur, puisqu'il est copropriétaire.
Actionnaire.
Il est copropriétaire, et c'est ce qu'il a écrit sur son Twitter. Oui. Il dit, je suis copropriétaire.
En anglais.
À une certaine période, tout ce qu'on va dire aujourd'hui à Didier Drogba, c'est bravo, parce que, au moins, lui, contrairement aux footballeurs africains qui parfois se transforment en mendiants locataires, deviennent des sans-abri, lui, depuis totalement 2008, il a acquis sa maison, que ce soit à Londres, il a des actifs, il a une fortune qui est élevée à 26 millions d'euros.
Donc là, c'est une transition, une bonne transition. Son objectif, c'est de faire grimper le club en MLS.
Absolument. Alors, il faut savoir qu'en MLS, c'est un système de franchise. Donc, chaque année, on en rajoute. Donc, le championnat va bientôt être à 30 équipes.
Mais on gagne pas sa place sur le terrain.
Non, il faut présenter un projet, effectivement, business, en fait, avec un stade qui est maintenant, il faut construire un stade dans un certain laps de temps spécialement pour le football, avec bien sûr une étude de marché qui vous garantit un certain nombre de spectateurs dans ce stade. Il faudra aussi pouvoir faire venir des joueurs, hein. Il y a un salary cap, enfin tout est extrêmement encadré en MLS. Là, il y a deux nouveaux clubs cette année, à Atlanta et à Minnesota. L'année prochaine, il y aura un deuxième club à Los Angeles.
Il peut rentrer quand le Phoenix Rising? Je pense pas que peut rentrer dans deux ans, c'est
dans
ça?
Deux ans, je pense, ans, oui, ouais. Parce qu'il y a aussi le projet de Miami avec Beckham.
Ouais.
Donc, ce qu'il faut voir, c'est que ces projets n'aboutissent pas toujours. Et on se souvient de la volonté de Cantona de ressusciter le New York Cosmos. Ça a complètement disparu aujourd'hui, on n'en parle plus. Donc, il y a des clubs qui arrivent, et puis parfois d'autres qui disparaissent. C'est pareil, à Los Angeles, il va y avoir un deuxième club, mais il y en avait un autre avant qui s'appelait le Chivas USA, qui était propriété d'un milliardaire mexicain.
Et Johan Cruyff,
c'était il y a beaucoup plus longtemps. C'était l'époque de la NASA. Ces clubs peuvent naître, exister quelques saisons, puis disparaître. Ça fait partie.
Ça vous inspire quoi
Moi, je pense que Drogba n'a jamais fait mystère de son admiration pour Roman Abramovic, le patron de Chelsea. Et je pense que quelque part dans sa tête, il y a l'envie de suivre un petit peu ce chemin qui mène à être le vrai patron d'un club de football, et apprendre ce métier, et peut-être, qui sait, un jour, être plus près de cet Abramovic, mais non pas comme entraîneur ou comme joueur, mais comme dirigeant.
Il y a un autre exemple qui pourrait éventuellement suivre, c'est du côté de l'Italie, de Milan. La transition est toute faite, mais d'abord un petit montage.
La mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso.
Félicitations à notre réalisateur Nicolas Benita qui a subtilement illustré le passage du Milan AC de l'Italie à la Chine en passant du chant des partisans à Bruce Lee. Vous aurez reconnu.
Oui, ce qui m'a étonné, c'est que le chant des partisans soit choisi pour illustrer Berlusconi. j'étais un peu politiquement un peu surpris.
Effectivement, ouais. Mais c'est un homme de contraste, Silvio Berlusconi, homme politique controversé, c'est le moins qu'on le puisse dire, mais également dirigeant de club talentueux. Il était plutôt, on devrait parler au passé. Il n'est plus le patron du Milan AC. Bonjour Matteo Cioffi.
Niao.
Ça veut dire bonjour. Vous êtes mis au chinois, il va falloir quand même un petit peu travailler. Hein, je vous le dis, ne le prenez pas mal.
Ah ok. Alors, mais l'accent il était pas mal. Hein, je commence à faire des progrès là.
Bon, c'est la fin d'une ère, Matteo. Mais la fin d'un long feuilleton déjà, parce que ça faisait longtemps qu'on en parlait de cette vente du Milan AC. J'oserais même parler d'un serpent de mer.
Oui, au début c'était les Thaïlandais, puis il y a eu les Américains, et ensuite à la fin ça a été les Chinois qui sont arrivés au bout de leur histoire. Donc le Milan hier à 14h, c'était à 2h de l'après-midi.
Mais vous êtes alors chinois, c'est pas très grave.
On est tous devenus chinois, et maintenant on verra qu'est-ce qui va se passer. Oui, c'est vraiment un feuilleton qui a duré pas mal.
Alors justement, les investisseurs ont-ils parlé de leur projet? Sait-on ce que va devenir le Milan sous pavillon chinois?
Oui, ils ont parlé ce matin. On a entendu la conférence de presse du nouveau président, le 23e président de l'AC Milan, qui s'appelle Li Yonggang. Et là, la prononce, elle est parfaite, hein, je vous l'assure. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il est arrivé là parce qu'il a l'intention de ramener de nouveau l'AC Milan sur le toit du monde au niveau footballistique. Il travaille dans l'immobilier, hein, c'est une des seules choses qu'on connaît de lui. On sait qu'il construit des gratte-ciel, donc c'est pour ça qu'il a voulu dire qu'il a parlé du toit du monde. Et on verra maintenant qu'est-ce qu'il va faire, parce que la grande question est s'il a vraiment l'intention d'investir dans l'AC Milan et rendre cette équipe plus compétitive. Parce que on a quelques doutes s'il a eu besoin de 10 mois pour ramasser l'argent et acheter le club, combien de temps il aura maintenant besoin pour acheter des grands champions?
C'est que les garanties ont peut-être été longues à être présentées sur la table. Le Milan AC,
en 2 mois.
Matteo, le Milan AC, sixième, on parle quand même d'un monument un peu en péril, sixième devant l'Inter Milan, qui est également sous pavillon chinois, là ça remonte à un petit peu plus longtemps. C'est une bonne nouvelle, selon vous, le rachat du Milan AC par les investisseurs chinois?
Oui, c'est une très bonne nouvelle, parce que il faut savoir aujourd'hui que la Chine, sur le plan géopolitique, a misé beaucoup sur le sport, dans le soft power. Ça fait que il faut quand même se dire que la Chine a commencé à acheter un club des Pays-Bas. C'était en 2014. Aujourd'hui, on se rend compte que totalement, ils sont dans 14 clubs européens. Donc, pratiquement 3. Et il manquait quoi? Il manquait justement
un
très grand club comme le Milan. Il faut quand même se dire que les clubs les plus populaires en Chine, il y en a 3. Le Real, qui en 2016 avait 107 millions de fans. Et puis, Milan AC, qui a 106 millions de fans reconnus en Chine. Donc aujourd'hui,
et les clubs anglais. Hein.
Voilà. Oui, non, anglais. Mais ça c'est ça qui est officiel. Ouais. Donc c'est les clubs italiens qui sont beaucoup là-bas, et la preuve d'ailleurs, même Pelé, il est reparti en Chine. Donc aujourd'hui, moi je crois que lorsque la Chine le fait aujourd'hui, c'est un grand club qui a déjà gagné des ligues des champions. Je crois sept, qui a plus de 900 matchs et qui a eu 6 ballons d'or. Donc c'est un somptueux monument qui vient d'acheter.
Mais je crois que votre question, c'était pas ça. Bah, on est habitué aux divagations de Rémi Bonneau. C'est est-ce que c'est une bonne affaire pour Milan? Et effectivement, on entendait Matteo Cioffi. Matteo Cioffi disait qu'il avait fallu que deux mois, je crois, hein, pour qu'il rachète l'Inter de Milan. Là, c'est quelque chose qui traîne depuis 2 ans. Donc, on peut avoir des doutes. Parce que quand on voit ce qui se passe à Sochaux, par exemple, parce qu'effectivement, il y a une bonne dizaine de clubs européens qui sont passés sous le contrôle des Chinois. Alors, ça se passe plutôt bien, par exemple, à l'Atlético de Madrid, où ils ont laissé, en gros, ils prennent des participations, ils laissent en place les dirigeants. À Nice, c'est également le cas. Dans ce cas-là, ça fonctionne. À Lyon également. Quand en revanche, ils prennent tout le contrôle, ça marche pas toujours très bien. On évoquait Sochaux. C'est vrai qu'il y a aussi Auxerre en France. Il y a Aston Villa en Angleterre. Il y a des clubs où ça ne marche pas du tout bien quand les Chinois prennent les commandes.
Bah, le football en Chine ne marche pas du tout.
Ils mettent de l'argent pour développer leur championnat.
Ni en club. En ce moment, Frédéric, ils mettent beaucoup d'argent, mais ça marche pas du tout. Ils connaissent rien.
De commencer.
Rémi, il y a 15 ans, ils étaient déjà à la Coupe du Monde.
Je pense que le rachat du Milan AC correspond à une réalité économique.
de notre monde d'aujourd'hui. Si on regarde la dernière décennie, il y a beaucoup de capitaux qui sont venus de l'Asie. L'Asie est devenue un continent qui compte dans le monde du football, pas avec des talents comme en Afrique, mais avec des fonds qui viennent du Qatar, qui viennent de Dubaï, des Émirats ou qui viennent de la Chine actuellement ou de l'Inde. Et je pense que c'est une réalité tout simplement. Et je pense que le Milan AC, qui est un club en péril parce que le Milan AC se cherche depuis plusieurs années. Je pense que c'est une très bonne affaire parce que le Milan AC a une image, un palmarès et c'est un club qui est mondialement connu.
C'est une bonne affaire surtout pour Berlusconi qui avait un énorme endettement, qui tout d'un coup se retrouve avec un joli pactole pour les clubs.
Matteo, on parle quand même d'une grosse somme, plus de 700 millions d'euros.
Oui, dont 220 millions d'endettement.
Voilà, donc c'est un beau pactole. Et Frédéric Quena le disait, Matteo, c'est aussi le signe que les temps ont changé. Effectivement, c'est la fin d'une ère, je le disais, Silvio Berlusconi. Peut-être faire le bilan de son passage, entre guillemets, le terme est un peu faible pour parler de ce qu'a réussi Silvio en 31 ans. Silvio Berlusconi à la tête du Milan, c'est la période la plus glorieuse de l'histoire du club, de très loin.
Oui, en effet, il a quitté le club pour des bons, mais quoi, il restera le président le plus important de la AC Milan et surtout le plus gagnant, car pour l'instant, aucun patron d'une équipe de football au monde a un palmarès comme le sien. En 31 ans, il a gagné 29 trophées, c'est-à-dire 8 Scudetto, 5 Ligues des Champions, 3 Championnats du Monde pour club, 1 Coupe d'Italie, 5 Supercoupes européennes et 7 Supercoupes d'Italie, dont la dernière il y a quelques mois, lorsque la AC Milan avait battu au pénalty la Juve. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment tracé l'histoire de ses clubs, et on peut l'aimer, on peut le détester, mais il faut dire que comme président de club de football, il a été quasiment impeccable.
Et vous me parliez hors antenne, puisqu'on se parle hors antenne, hein, on s'appelle pas tout de suite une fois la lumière allumée, Matteo, qu'il y a eu un petit sondage qui a été réalisé sur justement les joueurs qui ont marqué la période Berlusconi à Milan.
Oui, en effet, c'est la Gazzetta dello Sport qui l'a fait ce matin, mais c'est pas sur les joueurs, c'est plutôt sur les entraîneurs. On a demandé quel était à l'avis des lecteurs de la Gazzetta dello Sport l'entraîneur qui a fait les choses meilleures à l'AC Milan. Il y avait donc Sacchi, Capello et Ancelotti. Et je vous dis que pour l'instant, c'est Arrigo Sacchi qui a entraîné l'équipe pendant de la période de 89 jusqu'à 91, qui est en train de...
Qui pour l'instant fait la course en tête. Le Milan de Sacchi, pour les plus jeunes, je dis ça, moi je l'ai pas vraiment connu non plus. Le Milan de Sacchi, c'est un peu l'équivalent du Barça de Guardiola à l'époque.
Barça de Cruyff,
c'était son contemporain, mais domination sur le identité de jeu marqué,
ce sont les deux entraîneurs qui ont révolutionné chacun leur football. Guardiola a amélioré ce qu'avait fait Cruyff, mais c'est Cruyff qui a révolutionné le football espagnol et c'est Sacchi qui a révolutionné le football
italien. Mais pour vous, le Milan de Sacchi, c'est quoi le
Milan de Sacchi? Ça a été une équipe formidable qui joue un football extrêmement offensif en s'appuyant aussi sur des joueurs de grand talent, notamment les Néerlandais Gullit, Van Basten et Rijkaard, qui l'ont bien aider aussi à mener cette équipe au sommet de l'Europe et même du monde. Ils ont gagné aussi l'ancêtre du mondial des clubs. Non, c'était vraiment une philosophie qui a révolutionné l'Italie parce que ils jouaient l'attaque au pays du Catenaccio.
Merci Matteo Cioffi. Désolé Rémi, je vous donne la parole dans un instant. Merci Matteo Cioffi d'avoir été avec nous. Le derby de Milan, parce que le Milan AC affronte son voisin et rival demain. Les choses sont bien faites. 10h30, temps universel.
Vous avez vu l'heure.
Midi 30, c'est ça, heure de Milan?
Midi 30, oui, parce que à Pékin, ce sera 18h30, donc ils seront un peu plus tranquilles. Voilà, ce sera avant le repas.
Les choses sont bien faites. Merci Matteo Cioffi d'avoir été avec nous pour parler du rachat du Milan AC. On passe au carton, l'heure tourne.
Carton jaune.
Un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge
dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Les cartons vert, jaune ou rouge, on peut commencer par vous, Frédéric Quena.
Alors, je donnerais un carton vert pour je veux dire l'après l'après-événement Dortmund-Monaco, je pense que les supporters ont fait preuve de solidarité et c'est vraiment, pour moi, c'était une très belle image parce que voilà, les supporters se sont retrouvés coincés au stade Dortmund. Vous savez ce qui s'est passé avec Dortmund et je pense que quand le terrorisme vous frappe, un peu comme en Égypte, c'est là où la solidarité doit marquer les esprits et doit prévaloir.
Et doit être montré comme ça là.
Exactement.
À la face du monde, un beau message, Frédéric. Philippe Doucet, excusez-moi.
Ouais, alors sur le même thème, pas le même thème, mais le même match, Dortmund Monaco, un carton jaune mûr à l'UEFA, car ce match n'aurait jamais dû être joué le lendemain. C'est
il aurait fallu attendre.
Des considérations de calendrier à l'échelle de ce qui s'est passé sont indécentes à la limite et franchement l'UEFA n'a pas été bonne. Elle aurait dû resonder, je pense, le matin les deux équipes et je pense que là Dortmund aurait dit non mais on n'est pas capable de jouer, hein, il faut pas jouer. Évidemment.
Ouais. Xavier. Très vite parce qu'on va bientôt finir. Carton vert à Wilfried Zaha. Je sais reconnaître la qualité des adversaires d'Arsenal. Il a été très bon contre les Gunners. Et donc il en est à 9 passes décisives déjà cette saison en Première Ligue. C'est un record depuis 12 ans pour un joueur de Crystal Palace.
Très rapidement Rémi.
Ronaldo sans but, bien évidemment. Ça fait totalement ce qu'on pouvait appeler, bien évidemment, le vieux Ronaldo qui est toujours jeune, comme le dit un proverbe africain. Le vieux buffle continue toujours à aimer l'herbe verte.
Et le carton vert de notre stagiaire Emeric Kouassi pour Kylian Mbappé et le carton vert aussi de Radio Foot de toute l'équipe pour Laurent Sadou. Vous savez pourquoi. Très bonne soirée.